Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire livre 4, chant 1, le livre de la naissance et de la quête. Le chant 1 commence par la naissance et l'enfance de la flamme. Savitri, la flamme et la passion, celle qui n'admet pas la victoire de la mort ni du destin, la semence du changement de la terre. Ménade des cycles du désir, autour d'une lumière qu'elle n'ose pas toucher, la terre suivait sans fin le voyage du soleil, se hâtant vers quelque but inconnu là-bas. Un mental encore somnolent dans le roulis du vide, rêvait de la vie sur la poitrine de l'inconscience et portait la finitude de ce monde de pensée et d'actes à travers la transe immobile des infinitudes. Un vaste silence immuable courait sur la terre, prisonnière de sa vitesse, sur une roue planétaire, elle communiait avec le cœur mystique de l'espace. Au milieu du silence ambigu des étoiles, elle allait vers quelques événements irrévélés, tandis que son rythme mesurait le long tournoiement du temps. Dans sa marche sans trêve autour de l'horizon pourpre, jour après jour roulait comme des raies colorées, et par l'enchantement des teintes changeantes de l'azur, les saisons s'enchaînaient dans leur danse signifiante, traçant le cortège symbolique des revirements de l'an. Sur la brûlante langueur de la glèbe, l'été paradait dans la splendeur de ses midis violents, jetant la tyrannie de sa lumière torride et le sceau bleu d'un grand ciel lisse. Puis, la saison des pluies s'est abattue sur les ailes déchirées de la chaleur, brisant la masse figée de cet étourdissement de feu, secouant d'éclairs la somnolence inquiète de l'air, fouettant la terre torpide de ses torrents féconds, couvrant de feu et de fracas et de nuit lacérée d'orage, les portes sombres du sommeil des cieux gardées par les étoiles, où voilaient des nuages tassés la face brune de la terre, cachant l'œil d'or de son amant solaire. Une révolution en armes sillonnait les champs du temps. L'interminable marche des nuages assiégeait le monde. Les tempêtes insurgées revendiquaient les cieux et les tambours tonnants annonçaient la bataille des dieux. Voyageuse des mers turbulentes alentour, la crinière dense de la mousson chevauchait les heures de la terre en hennissant. Et maintenant, les fusées émissaires se mêlaient, d'énormes éclairs fendaient le cercle de l'horizon, se ruant comme un branle-bas de combat, mariant les falaises furieuses des cieux aveugles et nus. L'assaut et la vague sifflante d'une pluie énorme, la longue dérive verticale et les clameurs blessées de l'ouragan. La rafale des vents contraires, le galop de la tourmente, des vallées balayer le ventre, des plaines prostrées, le déluge des cieux traîner sa robe sur les terres noyées. Où tout était déferlement et course stridente, où tout était tempête, tumulte, cataracte. Une vague pénombre pendait sur le fond gris du jour, joignant le matin au soir dans un rampement de brume où se vautrait dans la bourbe jusqu'à nuit faite. Le jour portait un lourd vêtement de demi-deuil. La lumière regardait dans le miroir souillé de l'aurore et y trouver sa propre face jumelle du crépuscule. Les torrents, les clapotements et la brume suintante ondoyaient partout et changeaient l'argile sèche en marécages et miasmes fumants. La terre était une frondière et les cieux un morne bloc. Pendant des semaines trempées et froides, nul ne voyait le soleil dans son donjon. Même quand la tourmente ne troublait plus le sombre repos de l'air, ou si quelques pâles rayons luisaient à travers les nuages pleureurs comme grilles, un triste sourire entre deux larmes. Toutes les clartés prometteuses s'évanouissaient, sitôt frustrées ou vite condamnées, s'éteignaient comme un espoir sans lendemain. Puis, un dernier déluge massif a fouetté la fangue morte, et un grondement lointain est retombé dans le silence partout. Seul restait le glissement furtif des eaux en reflux, ou le murmure et la houle verte des arbres. Mais maintenant l'humeur de la terre changée, apaisée, elle reposait et se berçait, les heures passaient d'un lent pas satisfait. Un air tranquille et large se souvenait de la paix. La terre était la compagne d'un soleil heureux. Une douceur venait la caresser comme à l'approche de Dieu. Une lumière songeuse allumait le sol et le ciel. Puis, dans une identité, une félicité a rempli le cœur solitaire de sa méditation. Un rêve musardé dans la pensée muette de l'espace. Le temps ouvrait ses chambres de joie, une émotion entrait, un espoir. Un moi, tout au fond, cherchait des hauteurs plus célestes. Une pensée, tout au fond, réveillait une flamme cachée, et la vision intérieure adorait un soleil inaperçu. Trois saisons pensives passèrent d'un pas ensoleillé, scrutant une à une des heures fécondes, guettant une flamme enfouie dans les profondeurs lumineuses, telle une vigile de quelque puissante naissance à venir. L'automne, d'abord, et la magnificence de ses lunes rêvées dans la splendeur de ses lacs de lotus. Puis l'hiver, et le temps des rosées posait ses mains fraîches sur la poitrine de la nature, encore somnolente, et rendait plus profondes les teintes douces et voilées et la tranquille beauté de l'année déclinante. Alors le printemps, l'amant ardent a bondi par la ramée et saisi l'épouse Thérèse dans son étreinte passionnée. Son avènement était un feu irisé, ses bras une ronde de la joie arrivée. Sa voix était un appel à la sphère du transcendant, cette note secrète dans nos vies mortelles qui garde à jamais neuve l'ivresse du monde, qui donne des formes nouvelles à une tendresse ancienne et garde intacte, inaltérée par la mort et par le temps. La réponse de nos cœurs au charme de la nature et rend toujours neuf et pourtant toujours pareil le battement qui se rappelle à jamais du vieux délice et de la beauté, du ravissement et de la joie de vivre. Sa venue a porté la magie et l'enchantement. À son toucher, le cœur là de la vie devenait heureux et jeune. Sa joie se faisait prisonnière consentante dans les poitrines. Ses mains étaient comme d'un jeune dieu sur les membres de la terre, transformés par la passion de cette invasion divine d'un baiser, le corps de la terre s'emplissait de beauté. Assoiffé de félicité, il venait, jouant de sa haute flûte avec le cri joyeux du koel, traînant sa robe de paon sur la futaie, son haleine chaude appelait le délice, son regard avait l'intensité voluptueuse de l'azur. Une tendre ardeur céleste surprenait le sang, enamouré de l'instinct des joies sensuelles de Dieu, partout courait un rythme révélateur de la beauté impérieux, réclamant le cri du ravissement de la vie, des accents immortels touchaient les heures fugitives. Une intensité divine exultait dans les sens. La respiration même devenait un plaisir passionné. Toutes les voix et tous les regards tissaient un même sortilège. La vie de ce globe enchanté devenait une tempête d'odeurs et de lumière et de chansons, une orgie de couleurs et d'extase, un hymne solaire, une litanie de cris, un choral de musique sacrée bourdonnait et jaillit de l'encens des arbres ballottés un sacrifice parfumé emplissait les heures. Les ashokas flamboyaient en grappes écarlates, pures comme la laine d'un désir immaculé. Les jasmins blancs hantaient l'air amoureux. Les corolles pâles des manguiers délectaient le cri limpide des colibris, ivre d'amour. Et l'abeille brune murmurait dans la fragrance des pollens. Le ciel radieux était le sourire d'or d'un grand dieu. La nature entière était un festival de beauté. À cette heure-là, sur un haut signal des dieux répandant au cri de la terre et à sa soif de joie, une grandeur est venue de nos autres pays. Dans le tumulte des créatures terrestres, un silence a révélé le mot secret, irrévocable, je répète. À cette heure-là, sur un haut signal des dieux répondant au cri de la terre et à sa soif de joie, une grandeur est venue des autres pays. Dans le tumulte des créatures terrestres, un silence a révélé le mot secret, irrévocable. Un influx plus puissant a rempli cette argile oublieuse. Une lampe s'est allumée, une image sacrée a pris forme. Un rayon médiateur a touché la terre. Un pont fut jeté sur le gouffre entre le mental de l'homme et la pensée de Dieu, transplantant les cieux dans une forme humaine. Sa splendeur reliait notre vie éphémère à l'inconnu. Un esprit conscient de sa source céleste descendait dans le moulin parfait de notre terre et ne pleurait point de sa chute dans la mortalité, mais regardait tout avec de grands yeux tranquille. Celle-ci, qui avait anciennement lutté contre la nuit et notre douleur, revenait des plans transcendants pour porter de nouveau le fardeau du souffle mortel. Une fois encore, elle reprenait sa tâche divine inachevée. Survivante de la mort et des âges de l'univers, une fois de plus, son cœur insondable affrontait le temps. Pardon. De nouveau se renouveler, de nouveau se révéler cette ancienne intimité cachée par la vision terrestre, ce contact secret brisé par le temps. La consanguinité de la terre et des cieux, de sa parcelle humaine qui peine ici, est d'une force sans limite, mais pas encore née. De nouveau, la hasardeuse tentative mystique commençait, la gageure audacieuse du jeu cosmique. Car, depuis la première fois sur ce globe aveugle et tournoyant où le plasma terrestre a tressailli sous la lumière mentale et la vie envahit l'enveloppe matériel, affligeant l'inconscience du besoin de sentir. Depuis que s'est éveillée une voix dans le silence de l'infini, une mère de sagesse œuvre dans la poitrine de la nature pour faire couler la joie sur ce cœur de peine et de soif et pousser la perfection des pouvoirs chancelants de la vie. Imposer la sensibilité des cieux à l'abîme obscur et rendre cette matière muette, consciente de son Dieu. Quand même, notre mental déchu oublie de grimper. Quand bien même notre substance humaine résiste ou se brise, elle garde sa volonté, son espoir de diviniser cette boue. L'échec ne l'arrête point. La défaite ne peut l'abattre. Le temps ne peut pas la lasser, ni le néant la dompter. Les âges n'ont pas diminué sa passion. Elle n'admet pas la victoire de la mort, ni du destin. Toujours, elle pousse les âmes à une nouvelle tentative. Toujours, son infinitude magique oblige les éléments inertes et bruts à aspirer. Comme l'une qui a tout l'infini à perdre, elle sème la semence de l'énergie de l'éternel. Dans un moule à demi animé qui s'émiette, plante le délice des cieux dans la bourbe passionnée du cœur, lance la poursuite de la divinité dans la carcasse brute de la bête, cache l'immortalité sous un masque de mort. Une fois de plus, cette volonté prenait une forme terrestre. Un mental recevait le pouvoir de l'immuable siège de la vérité, était bâti pour voir et pour traduire en acte. Et les instruments étaient souverainement conçus pour exprimer la divinité dans les symboles de la terre, façonnés par la pression de cette descente nouvelle, un corps était formé, plus gracieux que tout ce qu'avait connu la terre. Annonciateur seulement, et comme une première ébauche, l'arc radieux d'un invisible tout enchanté entrait dans le ciel de la vie mortelle, prometteur comme le croissant d'une lune d'or qui revient dans un pâle soir illuminé. Au début, telle une lueur d'idées sans forme, elle reposait passive et abritée dans un sommeil sans voix, enveloppée et engloutie dans la gigantesque hypnose de la matière, un cœur d'enfant battait dans les caves profondes du plan cosmique. Bercée et balancée dans le berceau d'une inconscience divine, roulée par le ravissement des soleils de l'univers. Quelque puissance prédestinée dans cette forme à demi éveillée nourrissait la glorieuse semence maître d'une naissance transcendante pour que ce gîte vivant fût créé. Mais bientôt, le lien de l'âme et de la forme était devenu sûr. Je répète. Mais bientôt, le lien de l'âme et de la forme est devenu sûr. Les caves obscures s'inondaient d'une lente lumière consciente, la semence devenait une pousse délicate et merveilleuse. La jeune pousse révélait une grande floraison des cieux. Immédiatement, elle semblait fonder une race plus noble. Venue sur cet étrange globe équivoque, l'enfant se rappelant intimement un pays lointain et vivait seul de son espèce divine parmi les hommes. Gardé par les cellules lumineuses de son esprit. Même dans ses mouvements d'enfant, se sentait la proximité d'une lumière encore cachée à la terre, des sentiments que seule l'éternité pouvait partager, des pensées naturelles à la patrie des dieux. Elle semblait n'avoir besoin de rien, sauf de son propre vol ravi. Sa nature demeurait à part dans un air puissant, tel un oiseau d'ailleurs à la vaste poitrine resplendissante. Posé sur un rameau chargé de fruits secrets, perdu dans la splendeur d'émeraude des bois, ou volant haut par des pics divins inaccessibles. Harmonieusement, elle posait l'empreinte des cieux sur la terre, à l'écoute d'un rythme léger de pures délices, ses jours passés comme se chantant à eux-mêmes. Chaque minute était un battement de cœur de la beauté, des heures s'accordaient à une douce tonalité consentante qui ne demandait rien mais prenait tout ce que la vie donnait, souverainement comme le droit inné de sa nature. Son esprit était proche de son soleil natal, son souffle intérieur proche de la joie éternelle. La première vie claire qui s'échappe du sommeil de la nature grimpe tout droit avec ivresse vers les cieux, absorbée dans sa propre poussée de joie, suffisante à elle-même et pourtant tournée vers tout, elle ne communique pas visiblement avec son monde, ne communique pas ouvertement avec ce qui l'entoure. Il existe une unité innée au culte qui n'a besoin d'aucun instrument et ne bâtit aucune formule. Elle grandit à l'unisson de tout ce qui est. Elle assume tous les contacts dans son extase. Riante et ballottée par les mers, elle consent au baiser du vent et transmue les chocs du soleil et de la brise. Un cri de joie danse dans ses feuilles. Une passion magique tremble dans ses fleurs. Une silencieuse félicité aspire dans ses rameaux. Une divinité secrète est la cause de cette beauté. Elle est l'esprit et l'hôte intime de tout ce charme. La prêtresse de cette douceur et la muse de cette rêverie. Sri Aurobindo. Alors aujourd'hui, je termine ma lecture sur la naissance et l'enfance de la flamme de Sri Aurobindo, Savitri, livre 4, chant 1, traduite en français par Satprem. Je remercie Sri Aurobindo et Douce-Mère de m'avoir permis de lire Savitri, Ganga Lakshmi.